Courrier cadre, l'entretien.
Le 4 janvier, M6 a lancé la troisième saison de Qui veut être mon associé, réunissant 6 investisseurs qui jugent des créations d'entreprises pour décider ou non de les financer. Parmi eux, Marc Simoncini, qui avait lancé le site de rencontre Mythique en 2001, Anthony Bourbon, fondateur de la startup Feed en 2017, et une nouvelle venue, la femme d'affaires canadienne Isabelle Chevalier. Le trio évoque les enjeux afférents au rôle d'entrepreneur, leader, manager et recruteur. Un entretien réalisé par Stéphanie Condis pour Courrier Cadre.
Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être présents pour répondre à nos questions. Donc la première, elle va être liée vraiment au contexte international de crise des matières premières, d'inflation. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de se lancer dans l'entrepreneuriat selon vous ?
Alors je vais répondre. Non, je vais répondre parce que je fais de l'industrie et je suis associé au groupe SEB, qui est un groupe qui a 165 ans d'histoire, je crois, et qui me dit que depuis, à part les deux guerres mondiales, on n'a jamais eu un contexte aussi difficile. Alors, je vais répondre à votre question. Donc les matières premières, le fret, la parité euro-dollar, la pénurie des composants, la pénurie des puces. Alors pour répondre, dans l'industrie, c'est le pire moment pour se lancer. Dans le reste, peut-être pas, mais dans l'industrie, je vais être clair, c'est vraiment le pire moment pour démarrer. C'est aussi le meilleur parce que c'était tellement difficile de se lancer que ceux qui se lancent sont un peu seuls. Donc ça évite quand même qu'il y ait des pléthores de concurrents qui se lancent au même moment. Mais voilà, donc c'est pas une période facile.
On voit qu'il y a beaucoup de réussites néanmoins qui ont commencé pendant une crise parce que en cycle baissier, on sait qu'il va falloir 3-4 ans pour que le cycle haussier revienne et encore plus pour les investisseurs, en tout cas les business angels, c'est un moment incroyable parce que les vrais investisseurs professionnels ont levé le stylo, ils ont arrêté d'investir et du coup on peut se positionner avec des valorisations qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus justifiées. Donc en tant que business angel, personnellement je suis content de cette crise parce qu'on a un an pour déployer un maximum de ressources.
Et vous, Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de...
Tout à fait aligné. En effet, c'est une période qui est très difficile, mais il y a énormément d'opportunités. Alors, dans tout moment comme ça, c'est de savoir les trouver. Et donc, pour un investisseur, on est beaucoup plus sélectif, mais il y a beaucoup d'opportunités. Alors, en fait, dans le moment, nous sommes vraiment aux aguets de trouver ces opportunités.
Et alors, étant donné ce contexte, qu'est-ce qu'il faut quand même avoir en tête en ligne de mire ? Est-ce qu'il faut adopter une attitude particulière en tant qu'entrepreneur liée à ce contexte ?
La règle en général quand il y a ce genre de crise, moi je crois que c'est la quatrième que je vis, c'est qu'il faut avoir au moins 2 ans d'avance en trésorerie, il faut penser à restreindre ses effectifs de 20 à 25%, et il faut se concentrer sur la rentabilité. Parce que si vous n'êtes pas rentable, ça va être comme, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des fonds. Les fonds préfèrent mobiliser leurs ressources sur les boîtes qui sont déjà rentables pour qu'elles aillent encore plus vite et éviter de financer des entreprises qui ne sont pas rentables ou qui le sont trop loin parce que c'est des ressources qui sont consommées. Donc c'est un jeu qui est quand même assez difficile. Donc il faut vraiment se concentrer sur la rentabilité.
Et c'est vrai que là, la crise, elle est mondiale, mais après, chaque carrière, chaque parcours comprend des hauts et des bas. Je me demandais, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, les échecs ou les succès ?
Un échec, c'est un problème, et un succès, c'est un bon problème. Mais dans les deux cas, ça reste un problème.
Et on apprend beaucoup plus peut-être des échecs. En tout cas, un succès, on en profite, on est content, on pense à l'avenir. Mais l'échec est reproductible quand le succès ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qui vous a mené à un succès, si vous le reproduisez exactement de la même manière, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que ce qui vous a mené à l'échec, si vous le reproduisez, vous êtes sûr que vous échouerez à nouveau. Donc l'échec, c'est quelque chose de très important. Et les jeunes qui se lancent en font beaucoup. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs très expérimentés comme Marc qui peuvent montrer la voie. Mais quand t'es jeune, tu fais forcément toutes les conneries possibles et inimaginables, mais c'est comme ça aussi que tu deviens un bon entrepreneur. Et c'est Xavier Niel qui disait qu'il était là pour financer l'échec, parce qu'en finançant un entrepreneur qui va échouer, il sait que ça deviendra un repeat entrepreneur qui là pourra potentiellement faire de belles réussites.
Et on parlait de jeunesse, mais enfin on peut être un jeune entrepreneur après 40 ans. Est-ce que ça donne des conditions un peu particulières de se lancer quand on est moins jeune, quand on a déjà un parcours derrière soi, ou finalement les fondamentaux sont les mêmes à respecter ?
Je crois avoir lu, mais je suis très mauvais en chiffres, que les entrepreneurs qui réussissent, souvent ont monté leur boîte vers 40 ans.
Absolument.
C'est toujours vrai ça ?
Même
un peu plus.
Ouais.
Voilà.
Donc, c'est autour de 50 ans. Les grosses réussites sont souvent autour de 50 ans parce que très naturellement, le réseau a grossi, on a énormément d'expérience, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Donc contrairement à ce qu'on peut croire dans la French Tech qui est très jeune, Les belles réussites sont souvent un peu plus tardives, mais ce qui est assez logique puisqu'on a plus de moyens pour se lancer, donc on est moins dépendant en levée de fonds, on connaît les erreurs, on a un réseau qui peut réagir, donc ça paraît assez logique au final de s'améliorer au fil du temps, un peu comme dans toute expérience.
Et ce qui peut être peut-être intéressant aussi, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire des investisseurs, par exemple, qui ont un certain bagage, et des jeunes entrepreneurs, ou inversement d'ailleurs, que sais-je. Ça, est-ce que vous l'avez remarqué dans vos expériences respectives ?
Ben moi, de fait, puisque je suis plutôt assez ancien, donc forcément, j'ai toujours des gens quasiment plus jeunes que moi. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'adorais investir dans des startups et des jeunes boîtes, c'est que ça permet aussi de se maintenir jeune. Vous avez des gamins qui arrivent, qui vous parlent de leur vision du monde, ça peut pas être la vôtre, il faut les écouter parce que le futur, il est dans la tête des jeunes, il est pas dans la celle des vieux. Donc c'est aussi une manière de rester à l'écoute et sentir ce qui se passe dans le monde que de travailler avec des jeunes.
Et vous leur apportez en échange l'expérience, le recul ?
Oui, l'expérience essentiellement. On a fait tellement d'erreurs que forcément, même s'ils en font beaucoup de leur côté, parfois, on est quand même capable de leur dire « on en a fait plus que toi, donc attention, celle-là, attention, celle-là. » Mais ils en trouvent toujours des nouvelles. Hein.
Oui, c'est important. C'est important qu'ils fassent leurs propres erreurs aussi.
Oui, parce qu'on apprend et ça, on ne peut pas apprendre, même si on prévient les gens « ne faites pas ci, ne faites pas ça », y a rien de vaut la propre expérience.
Non, exactement. Alors même si on les accompagne, c'est... quand on parle que les entrepreneurs qui réussissent sont souvent un peu plus âgés, donc en fait, ont déjà fait leurs propres expériences, on a beau dire « fais pas ci, fais pas ça », il y a quelque chose qui s'apprend de soi. Donc, il faut le faire aussi. Donc, voilà.
Et là, souvent, la jeunesse est synonyme de créativité, d'innovation. Ce n'est pas l'apanage de la jeunesse uniquement. Ça, c'est capital pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ce côté innovant, même si c'est une innovation qui n'est pas forcément technologique.
Bah, c'est nécessaire d'avoir une certaine innovation, une différenciation. Si on revient avec juste un MeToo, exactement ce qui est sur le marché, donc l'innovation, que ce soit avec un grand I ou un petit I, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour se différencier. Et de là aussi l'intérêt dans l'investissement, c'est d'aller chercher un marché où est-ce qu'on va être capable de prendre une part du marché qui se différencie.
Et vous, trois, est-ce que vous avez des façons différentes de, on va dire, booster l'innovation, l'encourager, la créativité à titre personnel ou avec les gens avec qui vous travaillez ?
Ce que j'essaie de faire, moi, c'est toujours de mettre l'expérience utilisateur au cœur de la problématique et de simplifier la démarche, quelle que soit la verticale, je pense que ça fonctionne. Pas besoin de réfléchir à des innovations trop compliquées. Parfois, il y a cette erreur chez les entrepreneurs de vouloir inventer un téléporteur pour penser qu'on est assez innovant. Mais parfois, ça va être par ton cahier des charges qui est beaucoup plus poussé. Ça va être dans le digital où l'expérience est beaucoup plus simplifiée. Ça va être dans les prix qui vont être en dessous, dans la qualité. Bref, il y a plein de manières d'innover et pas uniquement de réinventer l'avenir de manière très compliquée. Il faut aller de l'avant, faire pas à pas et pas avoir une vision non plus trop long terme, parce que si tu te fixes des objectifs trop compliqués à atteindre, tu baisses les bras, alors qu'en ayant des objectifs court terme et d'essayer de faire toujours mieux, en gros privilégier le travail quotidien versus la perfection, parce que la perfection tu l'atteins jamais et ça te fait plutôt baisser les bras.
Vous avez quelque chose à ajouter peut-être ?
Non, moi j'essaie de faire simple, j'essaie toujours de me dire est-ce que ce qu'on me présente tu en serais client. Ce qui m'a exclu de beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que je n'avais pas envie d'apprendre. Je pense par exemple aux crypto-monnaies. Bon, on m'a expliqué les crypto-monnaies, ça ne m'a jamais intéressé. Donc j'ai toujours rien à foutre de ce truc-là. Donc j'investirai jamais là-dedans. Bien m'en a pris pour l'instant. Et j'essaye de rester sur des sujets qui me parlent parce que le chemin va être déjà tellement long que déjà si au départ on n'a pas d'affinité avec le produit, si on ne le comprend pas, ce qui est encore pire, ou s'il ne vous passionne pas, ce qui est presque encore pire, il ne faut pas y aller. Donc moi, je suis assez basique. Est-ce que ce projet, ce truc-là, je serai client ? Si c'est oui, j'ai déjà franchi la première étape, que ce soit innovation ou pas d'ailleurs. C'est les critères que j'essaie de fixer. Restons simples. Ne pas investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'aime pas.
Et Isabelle, je voulais vous demander, vous avez le regard du marché américain, canadien. C'est vrai que souvent, vu du vieux continent, c'est porteur d'innovation, on voit ça comme ça. Mais en même temps, on a développé la French Tech. Donc, je voulais savoir déjà si vous avez une vision entrepreneuriale différente de vos camarades et comment vous voyez la French Tech aussi. Est-ce qu'on l'aperçoit de l'autre côté de l'Atlantique ?
French Tech, je ne suis pas sûre, j'ai une opinion vraiment précise sur ça. Par rapport à tout ce qui est innovation et entrepreneuriat, en fait, je les rejoins beaucoup. je pense que cet esprit entrepreneurial, il est assez universel. Hein? Alors, c'est d'avoir le goût d'entreprendre et de faire quelque chose qui est améliorer un produit, améliorer un service, répondre à un besoin, trouver une solution. Et après, donc, c'est nécessairement lié à l'innovation. Et c'est le goût de bâtir avec des équipes, d'investir pour aller chercher de la croissance. C'est ça, en fait, qui motive. Après, les industries ou les produits qu'on décide d'investir, c'est parce qu'ils sont en lien avec des valeurs, avec des intérêts. Ça se recoupe. Maintenant, les intérêts, peut-être qu'il est plus dans la tech. Moi, la tech, oui, mais pas tant. J'aime beaucoup les produits physiques. J'aime beaucoup la transformation. Naturellement, et puis tout ce qui est le mieux-être. C'est aussi un secteur, la santé, qui me rejoint beaucoup. Donc, voilà.
Mais parce que, aussi, c'est vrai qu'on se dit... En France, pendant longtemps, l'entrepreneuriat, ce n'était pas forcément très bien vu. On a
c'est
interviewé...
C'est vieux,
voilà. Mais, et on avait l'impression que finalement, de l'autre côté de l'Atlantique, ce côté self-made man, etc., c'est plus une image presque d'Épinal et qui est plus récente chez nous.
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de grandes familles ici, beaucoup plus, vu que c'est un plus vieux continent, les générations. Nécessairement, il y a un leg qui est là, qui peut être alourdi certaines façons. Donc, il y a une agilité peut-être en Amérique qu'on a et les gens ont naturellement convergé vers créer des boîtes pour s'en sortir parce que peut-être qu'il y avait moins justement de ressources familiales. Il y a cette débrouillardise, le système D là, qui existe, qui est très présent et qui a amené cette culture d'entrepreneur. Mais je dois dire aussi que, par exemple, l'émission qu'on fait au Canada, elle a contribué à redorer le blason de l'entrepreneur. Parce qu'il y avait aussi cette perception un peu tabou sur l'argent, initialement, et que peut-être c'est pas si bien que ça. Et maintenant, en fait, au contraire, on voit un revirement du pendule et il y a un engouement important pour l'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr que c'est pas facile et puis c'est pas pour tout le monde et ça comporte de grands risques, mais on voit vraiment qu'il y a un engouement et il y en a de plus en plus.
C'est assez drôle d'ailleurs parce que moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'entrepreneurs, il y avait des patrons. On était des patrons.
C'était compliqué.
Le mot patron, il était connoté, quoi. Et les Américains ont pris ce mot entrepreneur, qui est un mot français, en pensant qu'il est américain. D'ailleurs, George Bush avait dit à une conférence, je ne sais plus quelle année, il avait dit le mot entrepreneur, c'est un mot américain. Non, c'est un mot français. Nous, on ne l'utilisait pas. Les Américains l'ont utilisé. Puis finalement, il est revenu après les années 2000 en France. Et après les années 2000, il y a tellement eu de faillites, tellement d'entrepreneurs qui sont plantés qu'on n'a pas pu dire que c'était tous des patrons. Et donc, on a un peu passé la mode sur le mot entrepreneur. On est devenu des entrepreneurs alors qu'on avait inventé ce mot-là. Et ça montre l'écart culturel qu'il y a eu entre les États-Unis, le Canada, je connais pas, et la vieille Europe. Et désormais, les entrepreneurs sont aussi européens.
Parce que c'est vraiment une posture mentale, en fait. C'est vraiment une approche qui est différente face au travail, au business, à comment on le bâtit.
Alors justement, est-ce qu'on peut développer ça? Parce que j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui fait un peu les soft skills, pour utiliser un mot américain, de l'entrepreneur? Et il y en a mille, hein, j'imagine, mais chacun peut-être
a sa vision. Elle évolue beaucoup, parce qu'avant, l'entrepreneur qui est le patron, en avait une peut-être beaucoup plus, je ne vais pas dire dictatoriale, mais c'était beaucoup plus top-down hein, comme approche, alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est beaucoup plus d'équipe. Et les soft skills qui avant étaient presque mal vus, aujourd'hui sont prioritaire. Alors, si on n'a pas les soft skills, comment retenir des employés, motiver des employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Alors, en fait, le soft skills aujourd'hui, c'est essentiel. Et si on se retrouve devant un entrepreneur qui n'en a pas, ben en fait, c'est assez pour dire que j'ai pas envie d'investir.
Non, c'est sûr. Mais en quelques mots, on pourrait dire résilience, qui est le mot-clé, je pense, dans toutes les aventures entrepreneuriales. C'est peut-être le plus simple pour expliquer à quel point l'entrepreneuriat est compliqué. L'ambition, parce qu'il faut quand même rêver grand et faire de beaux projets, sinon ça sert pas à grand chose. La passion, je pense que chaque entrepreneur qui réussit aime sa verticale, aime le secteur dans lequel il travaille. C'est aussi ce qui est passionnant en tant qu'investisseur de toucher à tous ces sujets différents. On va toucher la beauté, on va toucher le produit, on va toucher la tech, on va toucher le Web3. Donc c'est passionnant d'avoir cette culture générale business. Et puis après, la détermination pour finir, mais qui se rapproche de la résilience, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner. Et on dit souvent que l'entrepreneuriat et la réussite, c'est un peu comme la clé sur le trousseau, c'est toujours la dernière qui ouvre la porte. Donc c'est quand tu es au pied du mur que tu dois te réinventer. Et c'est souvent là qu'on voit des pivots justement qui sont successful, parce que tu dois avoir un sens business, tu dois économiser. Et là, on le voit avec le Covid, les difficultés de financement. Tous les entrepreneurs ont revu leur business plan et typiquement, ça n'a sauvé plus d'un. Même nous, chez Feed, ça nous a permis d'avoir une nouvelle vision et d'être beaucoup moins dépensiers parce qu'on était un peu dépendant de l'acquisition des levées de fonds. Et aujourd'hui, on a réinventé le modèle pour être à l'équilibre et ça a changé complètement notre dépendance au fonds d'investissement.
Marc, est-ce que oui ?
Alors, tout ça, c'est vrai. Puis finalement, en me posant la question, disons, qu'est-ce que tu as eu comme talent ? J'en ai eu qu'un. C'est d'avoir réussi à attirer des gens meilleurs que moi partout et tout le temps. Parce que finalement, l'entrepreneur, il est bon dans ce qu'il fait, mais il a besoin d'un tas de gens qui sont vraiment très bons et bien meilleurs que lui sur plein de sujets. Et c'est quand même une démarche mentale qui n'est pas simple, parce qu'un entrepreneur, ça a souvent un gros ego. Quand on est bon quelque part, on pense qu'on est bon partout. Et c'est un long chemin pour comprendre que bah non, on n'est pas bon partout, il y a des gens bien meilleurs. Et arriver à attirer des gens bien meilleurs que soi, à mon avis, c'est le talent essentiel d'un entrepreneur.
Et vous avez trouvé la recette
oh,
alors
oui.
pour...
Moi, je ne fais plus rien, je prends que des gens meilleurs que moi.
Mais pour les attirer justement,
je leur donne ma vision et mon enthousiasme et l'envie de bosser avec moi, mais c'est tout quoi. Et je vois à quel point c'est formidable de travailler avec des gens formidables.
Et vous, alors donc pour attirer aussi, vous, bien vous entourer, bien vous associer.
Moi je dis que je connais Marc et comme ça les gens viennent travailler avec moi, donc c'est ma technique.
Très drôle. Alors en effet, il faut on ne bâtit pas une entreprise seule. Alors évidemment, l'équipe, c'est tout. C'est d'avoir des gens compétents autour de soi et voilà, de savoir bien s'entourer. C'est l'essentiel.
Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une dichotomie entre le fait d'être leader et manager, par exemple ? Est-ce que vous effectuez une distinction comment ouais.
Ah oui, ben, évidemment. Alors moi, j'avais trouvé cette formule, parce qu'elle vaut, mais enfin, je n'ai pas trouvé mieux depuis. Il y a des gens qui s'appellent les « et » et les « mais ». Les « et », c'est des gens à qui vous dites « on va faire un truc » et le mec va dire « ah oui, mais on va faire ça et ça et ça et ça ». Lui, c'est un entrepreneur. Et puis, vous avez le manager qui veut dire « mais ça va être cher, mais ça va être long, mais est-ce que c'est sûr ?» Mais voilà. Et il y a les « mais ». Et il faut les deux. Et c'est pas les mêmes. Si vous mettez que des « mais » ou que des « et », ça va être vraiment compliqué. Donc, il faut bien équilibrer les deux visions. C'est deux mondes à part, c'est deux personnalités à part et c'est deux talents complètement à part.
Et encore une fois, il faut avoir l'humilité, je pense, de reconnaître qu'on n'est pas des bons managers. Moi, le premier, il y a vraiment une différence entre le leader qui va porter la vision, qui va mettre de l'énergie, qui va essayer d'atteindre une mission, et puis les managers du quotidien qui sont des opérationnels, qui aiment le contact humain, qui vont faire des points d'étape régulièrement avec toutes les équipes. Et ça, c'est quelque chose de très nécessaire. Moi, typiquement, je suis mauvais là-dedans. J'aime bien travailler seul dans mon coin, mais j'ai heureusement des lieutenants à mes côtés qui vont vraiment être capables de fédérer, de faire ruisseler l'énergie. Donc savoir s'entourer, comme l'a dit très justement Marc, c'est la clé. Ce qui est très dur au début, c'est que t'as pas les moyens. Il y a une vraie différence entre quand t'as pas l'oseille du début et que t'es inconnu et que ton projet, personne ne le connaît. C'est très dur de recruter des bons talents parce qu'ils préfèrent aller dans des startups qui ont levé beaucoup d'argent, qui peuvent bien les payer. Donc il faut aussi utiliser des mécanismes comme les BSPCE, donc incentiver les employés sur la réussite future de la société. Mais les BSPCE, on en revient en ce moment, c'est de moins en moins sexy, les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas les exercer, donc pas vraiment gagner de l'argent. Donc encore une fois, il va falloir miser sur l'humain, sur l'émotion, motiver des gens à vous suivre, et c'est une vraie étape compliquée de tout projet.
Et vous parliez donc justement du fait qu'il fallait avoir les « et » et les « mais ». Donc en fait, en gros, pour bien s'associer, une des clés, c'est quand même avoir... c'est pas qui se ressemble s'assemble, c'est plutôt jouer la complémentarité, si je comprends bien.
Ouais, comme une équipe de sport.
Ouais, c'est comme un couple, hein, c'est comme un mariage, sauf qu'on ne peut pas divorcer quand on s'associe. Donc il faut bien choisir, et c'est souvent, enfin, toutes les histoires que j'ai vues, la quasi-totalité des histoires successful que j'ai vues, c'est des équipes. C'est un tech avec un commercial, c'est un HEC avec un geek, c'est des rencontres qui donnent une étincelle qui se propage ensuite comme un feu de paille. Mais c'est rare qu'il y ait des gens qui donnent l'étincelle tout seul et qui seul, il y en a, mais c'est pas l'immense majorité des cas. C'est souvent d'abord une histoire d'une belle rencontre.
Je dirais qu'il faut avoir des compétences complémentaires, mais des valeurs communes. C'est-à-dire qu'il faut partager les grandes visions et être capable de poser une brand plateforme, donc vraiment une plateforme de marque qui va expliquer quelles sont les grandes valeurs de la société, quelle est la mission, quelle est la promesse, et ensuite, évidemment, trouver des compétences différentes. Parce que si tu as trois cofondateurs qui se complètent, un tech, un marketing et un opérationnel, bon, bah, c'est magnifique parce que chacun va pouvoir dérouler à son poste. Donc, bien choisir son fondateur, c'est très important. Marc a parlé des réussites qui sont toujours liées à une bonne équipe, et on peut aussi parler de tous les échecs qui sont toujours liés à des problèmes entre les fondateurs. Et là, je suis dans une société qui est en train d'imploser alors qu'elle valait 200 millions, elle allait signer une valorisation incroyable, et les fondateurs se sont tapés dans les jambes et la boîte ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc l'humain est la clé pour toute aventure.
Et une autre position aussi souvent qu'on peut avoir en tête, c'est entre l'intuition et la réflexion. Est-ce qu'il faut équilibrer les deux, avantager l'une à un moment et puis l'autre après? Enfin, comment ça fonctionne?
Bah, écoute, moi là-dessus, je te dirais, l'intuition, elle est hyper importante à suivre. Et puis, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, plus on l'écoute, plus on l'entend et on est capable de la suivre. Donc, c'est important d'écouter cette intuition. Mais après, il faut la structurer. Et les deux, c'est pas un ou l'autre, mais bien les deux.
La confirmer par la data, ouais. Moi, j'aime beaucoup dire écouter l'intuition et la confirmer par la data, parce que parfois, tu peux être persuadé de quelque chose et en réalité, le marché n'est pas d'accord avec toi. Et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui font effectivement des business models très compliqués, mais ils n'ont pas parlé au marché. Et en fait, nous, typiquement, on était persuadés que les repas complets chez Feed, ça pouvait être quelque chose d'énorme. Et puis, en réalité, on a compris que c'était une bonne niche pour se lancer, parce qu'on avait une différenciation par rapport aux autres barres du marché, mais qui avait un plafond de verre qui allait très vite arriver. Et on a orienté vers le snacking en écoutant le consommateur, parce que quand on a fait des feedbacks et qu'on a fait des sondages, les gens nous disaient, bah, nous, vos barres repas, on les achète, on les coupe en deux et on les mange à 10h et à 16h. Je leur ai dit, mais en fait, c'est pas l'objectif du tout de notre produit. Et on a fait des barres, bah, du coup, plus petites et différentes, avec moins de nutriments, mais adaptées en fonction des moments de la journée. Donc, toujours être capable d'écouter le consommateur, parce que c'est lui qui a la solution. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette marque Shibari, là, du fromage blanc, bon, bref, peu importe, qui est pas très bonne. Et ils arrivaient pas à la faire fonctionner aux États-Unis. Et ça fonctionnait ailleurs. Ils ont demandé ailleurs pourquoi vous achetez ce produit. Et les gens ont dit, c'est pas très bon, mais on sent que c'est naturel. Et du coup, c'est devenu leur slogan aux États-Unis. Ils ont dit, c'est pas très bon, mais c'est très naturel. Et du coup, les gens se sont mis à l'acheter, donc le consommateur a toujours raison.
Et Marc, votre intuition, votre réflexion, c'est...
Écoutez, moi, j'ai souvent répondu à cette question, c'est pas l'intuition, c'est la chance. Puis finalement, on peut pas mieux résumer ça qu'en disant la chance, il faut juste apprendre à en avoir. L'intuition, c'est pareil. On a de l'intuition, mais en fait, on n'a pas l'intuition, on a pensé à beaucoup de choses qui, à la fin, vous permettent de voir ce petit sentiment d'avoir de l'intuition. Mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, il n'a pas d'intuition. L'intuition, c'est le travail final de la réflexion. Mais par contre, il faut apprendre à l'écouter et à le reconnaître. C'est ça qui est très difficile, et c'est ce que disait Isabelle.
Et du coup, quand vous disiez aussi savoir bien s'entourer, c'est aussi apprendre à déléguer. Ça, c'est pas forcément évident. En France, on sait pas trop le faire. Je sais pas si c'est mieux ailleurs, mais là aussi, est-ce que ça peut s'apprendre? Il faut travailler dessus.
Bah, franchement, si on l'apprend pas, ça s'impose. C'est-à-dire que c'est voilà. Tellement de travail de faire une boîte qui marche qu'à un moment donné, si vous les déléguez pas, vous implosez. Donc, de fait, vous êtes bien obligé de déléguer.
Oui. Je pense que la personne qui ne délègue pas, en fait, elle est le frein à sa propre croissance.
Bah oui.
Donc, c'est essentiel. Apprendre à bien diviser le travail et puis de s'aligner sur la vision de croissance.
D'où l'intérêt de s'entourer de gens bons, parce que quand on délègue sans stress, c'est pas la même vie que quand on délègue dans le désastre.
Ouais, déléguer sans charge mentale, Marc a raison. Il y en a qui vont déléguer mais surveiller ce qui est fait, alors que déléguer sans vérifier, c'est là que tu peux vraiment te concentrer sur un autre sujet. Mais ça te demande, ça requiert de la confiance, ça demande du temps, et c'est pas facile de trouver des profils en qui tu peux avoir confiance. Et c'est même pas une question d'argent. Là, j'ai un exemple avec quelqu'un qu'on payait très bien, mais on était obligé de tout vérifier. On disait, c'est jeudi soir qu'on doit rendre ce document. Et tu disais oui. Et en fait, le vendredi matin, tu étais obligé d'envoyer un mail, c'est fait. Ah non, mais aujourd'hui à 11h. Mais en fait, c'était hier soir. Et ça, c'est très dur. Et encore une fois, l'humain, le recrutement, à titre personnel, c'est là que j'ai le plus de difficultés.
Et tout le monde.
Oui, je pense que tout le monde. Et c'est ça qui est horrible, parce qu'il y a des bons projets, il y a des bons produits, on sait comment lever de l'argent. Mais en fait, on grossirait tellement plus vite si on était capable d'avoir que des bonnes personnes autour de nous. Mais malheureusement, c'est impossible.
Ça va, et c'est ça aussi, le défi de bâtir des équipes qui sont fortes. C'est que quand tu arrives à pouvoir avoir des gens que tu n'es pas obligé de vérifier, tu sais que ça va se faire et qui eux-mêmes vont pouvoir compléter la vision en disant « Ah, je vais amener d'autres idées qui vont... » Donc, c'est là comment on décuple la force de la croissance de l'organisation. Mais c'est un art, bâtir des équipes.
Finalement, c'est un truc qu'on ne peut pas apprendre, c'est le recrutement.
Ouais, c'est
ça ne s'apprend pas. C'est de l'industrie sur mesure. Vous avez beau monter toute la méthodologie que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut arriver à... Il y a beaucoup de chance, hein, d'opportunités. Trouver quelqu'un, l'intégrer dans une équipe, en faire quelqu'un de confiance, déléguer son stress. Si vous l'avez fait une fois... C'est, pas forcément vous le ferez une deuxième fois, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous savez le faire. Ça s'apprend vraiment, en fait, jamais. Et c'est souvent là qu'on se plante, souvent.
Et ce qui est ingrat, c'est qu'en plus, une fois qu'on a recruté, il faut savoir retenir le
talent. Oui, et puis créer la synergie dans les équipes, bâtir cette culture d'entreprise, parce que cette culture-là va aussi porter, et c'est elle qui va attirer également des nouveaux entrants dans l'équipe. Alors, c'est vraiment... Il y a un vrai parallèle à faire entre des équipes de sport et l'équipe en entreprise.
Ouais,
c'est, chacun a un peu son rôle, il y a des forces, et comment on crée cette synergie. Et après, il y a une magie qui s'opère. Quand on est dans le feu de bâtir, il y a une magie qui s'opère dans l'équipe. Et si on a bien placé les pions, en fait, on est capable d'un peu lâcher et ça part.
Et c'est pour ça que dans l'émission, on parle beaucoup d'aventure humaine, en fait. Parce
c'est ça dont on parle.
Mm-hmm. Parce que c'est ça, c'est avec des gens qu'on bâtit des entreprises.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci
je vous
beaucoup.
Souhaite une belle saison d'émission et de belles aventures humaines également.
Merci. Super, merci infiniment. Merci beaucoup.
Courrier cadre, l'entretien.